C'est-à-dire que ma voix arrive à fonctionner malgré le changement de temps. Et qu'on va pouvoir étudier tranquillement. Alors, j'ai choisi comme sujet d'étude sur la Haggadah les passages où la Haggadah formule le dialogue entre les pères et les fils. En fait, c'est les passages des quatre enfants que vous connaissez. Et nous allons d'abord, en introduction, découvrir le sujet lui-même. Ensuite, nous aurons une première lecture. Vous arrivez à m'entendre quand même ? Pas encore, hein ? Ça va bien. Nous aurons une première lecture, disons, habituelle, classique, de la catégorisation des quatre enfants, c'est-à-dire des quatre manières pour l'enfant, le soir de Pessah, de poser la question à ses parents pour comprendre, vous rappelez des formules de base, c'est pas la peine que j'y revienne, ce qu'il y a de différent dans le destin des familles d'Israël, Manishtana, qu'est-ce qu'il y a de différent? Et c'est bien sûr polarisé, disons focalisé, je ne sais pas comment dire, sur l'événement de commémoration de la sortie d'Égypte, puisque l'événement de la sortie d'Égypte est le principe fondateur, disons, de l'histoire d'Israël. S'il y a donc une spécificité, s'il y a quelque chose de différent, suivant le sens de Manishtana, dans l'histoire d'Israël, dans l'identité d'Israël, ça s'enracine bien évidemment à l'événement qui commémorait le sort de Pessah, c'est-à-dire l'événement fondateur de l'histoire d'Israël en tant que peuple, la sortie d'Égypte. Et j'ai choisi pour l'étude proprement dite, le commentaire de ces passages de la Haggadah qu'a donné le Rav Harlap, qui était le Talmid Haver du Rav Kook, le grand, le père, et qui a formulé de manière suffisamment claire pour que il nous suffira de lire le texte et de le commenter brièvement, une fois les introductions traversées, si j'ose dire. Et nous aurons alors là une deuxième lecture de cette catégorisation des quatre enfants à laquelle je viens de faire allusion. Bien. Alors je crois que le sujet de ce dialogue entre les pères et les fils à propos de Pessah est, retenons que l'objectif est de mettre en évidence ce qu'il y a de spécifique, ce qu'il y a de différent. Je n'osais pas dire dans la destinée, parce que ça ressemble trop à destin. Enfin, c'est un peu ça le sens de la notion que je voudrais définir. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'identité d'Israël et dans son histoire? Et je me baserai d'ailleurs dans cette introduction sur une remarque du Rav Harlap qui se relie à l'Haftara que nous disons le Shabbat Agadol. Vous savez que ce Shabbat-ci pour cette année, le Shabbat qui précède Pessah, est nommé le Shabbat Agadol, parce qu'il se réfère à un événement qui a immédiatement précédé la sortie d'Égypte elle-même. C'était la préparation du sacrifice de Pessah, 4 jours avant Pessah, et au vu et au su des Égyptiens. C'est comme ça qu'on dit, au vu et au su, oui, des Égyptiens. Et cet événement est gardé dans la tradition comme un événement miraculeux que je voudrais vous expliquer brièvement. C'est le fait que dans la sensibilité religieuse de cette civilisation égyptienne, on adorait les forces divines représentées dans des formes animales. Et il est bien évident qu'il faut comprendre à un niveau plus profond que simplement ce qui pourrait apparaître dans une apparence pure et simple d'idolâtrie primitive, ces grands paganismes de l'Antiquité n'adoraient pas les animaux en tant que tels. Mais ce que la forme, la morphologie, disons, de la vie dans les espèces animales représentait comme modèle de destin pour la vie humaine elle-même. Je dirais très brièvement, pour ne pas passer trop de temps sur cette notion, qui nous est d'ailleurs, je pense, assez familière, ces religions de l'Antiquité reconnaissaient comme divinité ce qu'on pourrait appeler en langage moderne les forces de la nature, mais à un niveau beaucoup plus profond que simplement ce que nous connaissons dans la mentalité scientifique contemporaine, les lois qui régissent les phénomènes, les lois de la nature. Mais ils avaient une sorte de diagnostic des forces cosmiques qui étaient en travail dans les phénomènes naturels eux-mêmes et qu'il considérait comme étant le dévoilement de la divinité. Mais cela était une sensibilité religieuse qui a été très riche, qui a eu une culture païenne extrêmement riche, à laquelle les modernes sont très peu sensibles. Enfin, le moderne est incapable de diagnostiquer ce que pouvait faire la ferveur religieuse de ces paganismes de l'Antiquité. Mais cela a été effectivement d'une richesse culturelle considérable, mais dans une atmosphère de fatalisme. C'est-à-dire, on considérait que la vie humaine était soumise à des lois de destin de la même manière que les objets inertes sont soumis aux lois impersonnelles et déterminées que nous appelons les lois de la nature. Ceci devrait être considérablement nuancé. Enfin, le terme qu'emploient les historiens de religion pour désigner ce type de sensibilité religieuse que nous appelons païenne ou idolâtre, quoique ce n'est pas exactement la même signification, ce sont deux termes différents, mais malgré tout c'est un peu dans le même univers, ils appelaient ça l'astrobiologie. C'est le terme consacré pour dire que les astres ont une influence sur l'histoire des êtres vivants, y compris l'homme. C'était en général cette sensibilité religieuse de laquelle Israël, à la sortie d'Égypte, va décrocher. Et la révélation de la Torah révélera un moment considérable de mutation dans la sensibilité religieuse de l'humanité. Ce n'est plus le destin qui est considéré comme étant la divinité, mais c'est la providence, une volonté libre, et qui juge la destinée des hommes d'après la loi morale. Il y a une mutation radicale dans la sensibilité religieuse à ce moment-là. Elle n'est pas encore achevée. Si l'on considère l'histoire de l'humanité comme en cours d'évolution pour arriver à réussir cette mutation qui a commencé à la sortie d'Égypte. Elle est bien évidemment préparée par l'identité des patriarches, et nous suivons en filigrane sur ce qui se passe pour Israël en tant que société, en tant que peuple à la sortie d'Égypte. Nous le lisons déjà en filigrane dans l'expérience individuelle qui a été celle des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et c'est le peuple de leur descendance qui va être le sujet principal de cette révolution religieuse considérable, encore une fois, à l'échelle de l'histoire de l'humanité tout entière. À la sortie d'Égypte, on sort de l'influence, on déconnecte avec l'influence astrobiologique, comme je l'ai décrit tout à l'heure, je me suis borné à faire allusion, mais je crois que c'est suffisant, pour se retrouver comme sujet libre devant une providence dont l'essentiel de la révélation de divinité est la loi morale. Alors nous avons cela en filigrane. Et voici donc que la sensibilité religieuse des Égyptiens s'était habituée à considérer comme sacrées les formes de la vie telles qu'elles sont représentées dans les espèces animales. Et c'est pourquoi les divinités reconnues par la conscience religieuse de cette civilisation étaient représentées sous des formes animales. Or, voici que précisément, Israël reçoit comme mitzvah, comme commandement préparatoire à la sortie d'Égypte, le fait d'avoir à se préparer à sacrifier ce qui était considéré comme la divinité par les Égyptiens. Il y avait donc là un événement de provocation à la sensibilité égyptienne et qu'il faut mettre en évidence. C'est-à-dire qu'il y a eu un courage considérable de la part de ce peuple, qui était un peuple encore soumis à l'esclavage, et qui, au vu et au su de leur maître, les Égyptiens, prépare l'agneau du sacrifice de Pessah, qu'on appelle en français le sacrifice pascal, l'agneau du sacrifice pascal. Et lorsque les Égyptiens leur demandaient ce qu'ils préparaient, ils allaient au marché pour acheter ces agneaux, et ils disaient, ben voilà, dans 4 jours, nous allons sacrifier ce qui est considéré par vous comme étant divin. Et je ne voudrais pas faire d'analogie de vocabulaire trop direct, mais imaginez un peu, dans la mentalité de l'antisémitisme chrétien au Moyen-Âge, lorsqu'on accusait les Juifs de, n'est-ce pas, de quelque chose d'analogue, c'est-à-dire de sacrifier à Pessah leur divinité. Et il y a eu donc, c'était le 10 du mois de Nissan, il y a eu donc un événement considérable. Cette année-là de la sortie d'Égypte, le 10 du mois de Nissan, était un Shabbat. Et c'est pourquoi le Shabbat qui précède Pessah, lorsque la convergence du calendrier fait que le 10 Nissan est un Shabbat, alors il y a une convergence beaucoup plus grande. Dans certaines communautés d'ailleurs, on considère le Shabbat Hagadol dans toute sa liturgie complète, exhaustive, que si le Shabbat est un dix nissan. Mais dans l'ensemble de la majorité des communautés, même si le Shabbat n'est pas un dix nissan, on le célèbre comme étant le Shabbat Hagadol. Il y a eu donc un grand miracle qui s'est produit. Les Égyptiens ont été pris de... ont été atterrés de ce courage de ce peuple d'esclaves hébreux dans leur camp de concentration qui se prépare avec une, encore une fois une attitude dont on ne peut pas nier le caractère courageux mais provoquant. Il aurait pu y avoir un désastre si les Égyptiens avaient décidé de venger leur sensibilité religieuse ce jour-là. Mais atterrés, pris de panique par ce courage des Hébreux le 10 Nissan de la sortie de l'Égypte, il ne s'est rien passé. Et la sortie d'Égypte a pu avoir lieu 4 jours après, dans les circonstances que vous savez. Je ne sais pas si les générations contemporaines du peuple juif seraient capables d'un même courage de défi. Et nous allons changer un peu de vocabulaire. Il y a dans la sensibilité juive contemporaine, depuis des siècles d'ailleurs, une espèce de rigichut, de, comment dire, le fait d'être vulnérable au qu'en dira-t-on extérieur. Qu'est-ce que les goïms vont dire? Ça paralyse l'histoire juive contemporaine. Je ne sais pas si vous voyez quel est le contraste. Alors qu'au temps de la sortie d'Égypte, eh bien évidemment, nos ancêtres les Hébreux, et si j'ose dire, n'avaient aucun scrupule de savoir ce que l'ONU du temps dirait de leur propre réaction. Bien. Or, l'Haftara que nous lisons, le Shabbat Hagadol, c'est une Haftara qui prévoit le jour de la fin des temps, de l'ultime délivrance de tous les exils, et donc le terme n'est pas employé dans cette haftara, mais l'idée y est, le commencement des temps messianiques. Et c'est prévu, il est prévu dans ce texte que, en ce temps-là, Élie le prophète se révélera avec pour fonction la réconciliation entre les pères et les fils. Alors le Rav Harlap établit un parallèle entre cette notion de base de l'Haftara du Shabbat Hagadol, le lien entre les pères et les fils, je vous dirai le verset immédiatement, et d'autre part, ce moment essentiel de la liturgie de la Haggadah, où va s'établir ce dialogue entre les pères et les fils concernant la question de l'enfant, découvrant le caractère singulier de sa propre destinée. Avant de pénétrer un peu plus dans l'analyse, je voudrais citer un des enseignements du Rav Kook, mon maître, le fils de Chaim Vacha, parlant de cela. Et nous allons voir tout à l'heure cette catégorisation des 4 enfants. Et mais vous savez déjà que parmi ces 4 enfants, il y en a un qui est défini comme étant Rachar. On traduira méchant, si vous voulez, une seule fois. C'est le révolté. Alors que les autres enfants, dans leur interrogation à leur père, dans leur interpellation à la génération précédente, que se passe-t-il avec nous, nous les Juifs, nous les Hébreux, eh bien, ils ont une attitude positive. Ils attendent, leur question implique qu'ils attendent une réponse et qu'ils sont prêts à s'y relier positivement. Le rachat, lui, est une attitude d'interpellation de révolte. Et le Rav Kook, ça me servira d'introduction plus directe encore à notre sujet, mettait ceci en évidence. La Torah a prévu que l'enfant doive interroger. C'est-à-dire, il ne faut pas s'étonner si la génération qui n'a pas eu l'expérience des événements dont il est parlé, doive normalement, et c'est même un devoir que la Torah indique pour le père d'avoir à répondre, doivent normalement se demander que se passe-t-il. Je veux dire, une très brève analyse de pédagogie sur ce point. Très souvent, la génération des parents a tendance à considérer comme négatif, néfaste, cette attitude qui est perçue comme une attitude d'insolence. Comment se fait-il que l'enfant de la famille mette en question l'identité de la famille en tant que cette famille s'insère dans l'histoire du peuple juif? Je ne sais pas si j'ai réussi à exprimer ce que je voulais dire. C'est que très souvent, il y a une sorte de postulat implicite chez les parents qu'il est indécent que l'enfant se demande qu'est-ce que ça signifie être juif, pourquoi être juif. On perçoit ça comme une attitude de rachat, comme une attitude de révolté. Alors que Rav Et je vais vous lire tout de suite le verset qui l'institue, nous montre que la Torah a prévu que cela est normal et que cela est positif. Et donc, si une de ces quatre attitudes des enfants, celle du rachat, devient négative, est dans une attitude d'interpellation, de révolte, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les parents et les enfants qui a conduit à cette attitude de révolte et qu'il faut donc élucider a priori. Alors, il expliquait de la manière suivante. C'est que à l'âge de l'adolescence se produit une sorte de pudeur qui rend le dialogue entre parents et enfants très difficile. On n'ose pas parler de l'essentiel. Les conversations familiales entre parents et les enfants de l'âge de l'adolescence semblent, comment dire, contourner une sorte de tabou, le problème essentiel. Cet enfant dont la conscience est en train de s'éveiller à une destinée historique particulière, et on ne peut pas nier que l'histoire juive de la dispersion condamnait les enfants juifs à savoir qu'ils étaient différents des autres, mais même maintenant que nous avons retrouvé une histoire nationale, on ne peut pas nier non plus que cela a changé de niveau, mais je reprends la formule habituelle que vous connaissez, Israël comme juif des nations, c'est-à-dire nous vivons à l'échelle nationale ce que les juifs à l'échelle individuelle ont vécu dans les villes, c'est-à-dire l'humanité tout entière d'un côté, et puis nous de l'autre côté. Et alors donc, l'enfant finalement, un jour, a le courage de demander, et je le formule exactement comme je l'ai entendu du Rav Kook, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Et le père se trompe de réponse. Il répond, ben, toi tu seras avocat, toi tu seras ingénieur, toi tu seras docteur. Or, c'est pas ce que l'enfant avait demandé. Mais j'espère avoir mis en évidence ce caractère de pudeur très délicate de l'âge de l'adolescence où on n'ose pas parler de l'essentiel, comme si c'était indécent de parler dans la cellule familiale au fond du vrai problème, que sommes-nous, nous les hommes, et parmi les hommes, que sommes-nous, nous les juifs. Eh bien, dites-nous, vous les adultes, à nous les enfants, expliquez-nous. Il y a une pudeur qui paralyse cela, un tabou. Je me souviens d'un de mes professeurs de philosophie qui, en parlant de toute autre chose, employait l'expression suivante qui m'a resté dans la mémoire. C'est aussi indécent que de s'évanouir une tasse de thé à la main dans un salon Pompadour. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Et alors donc, lorsque l'enfant a enfin le courage de dire « Mais enfin, de quoi s'agit-il, Mazot, de quoi s'agit-il, avec nous, les Juifs et notre identité ?» et qu'il s'entend répondre avec cette stratégie socio-économique du père soucieux d'assurer la promotion sociale de ses enfants, il n'entend pas la vraie question et il donne une réponse qui finalement mène l'adolescent à la révolte. C'est-à-dire le rachat s'est révolté du fait de n'avoir pas reçu la réponse à sa question, alors il se bloque dans l'attitude de révolte. Je ne sais pas si j'ai réussi à indiquer un peu la phénoménologie de cette question qui reste mystérieuse chez les commentateurs. Dans quelle famille juive y a-t-il quatre sortes d'enfants aussi différents? Un haram, un sage, un rachat, un révolté, un tam, un simple, j'ai la lecture classique pour le moment, le chenoyoder l'ishol, et quelqu'un qui ne sait même pas qu'une question se pose et qu'il y a à la poser, qui ne sait même pas interroger. Avant d'entrer un peu plus en détail dans l'analyse, je citerai un enseignement qui vient de la Kabbalah, qui a été surtout véhiculé par l'enseignement de la Chassidoute, et qui est qu'il s'agit de la famille d'Abraham. Dans la famille d'Abraham, effectivement, nous voyons quatre personnages principaux en relation au problème de la révélation de la Torah. Un est Chacham, c'est Isaac. Et le Chacham, sa question, c'est qu'y a-t-il à faire? Que faut-il faire pour... On a le pressentiment qu'il y a quelque chose à réussir dans l'histoire de la destinée, mais que faut-il faire? Vous remarquez tout à l'heure, et immédiatement lorsque nous verrons le texte, qu'il ne se pose pas de questions métaphysiques. Il ne se pose pas de questions au niveau du pourquoi. Il se pose des questions au niveau du comment. C'est-à-dire, il a admis par postulat qu'il y a une signification à tout cela. Et même si on ne la connaît pas, on doit se mettre à l'abri du comportement qui a pour objet de faire réussir cette signification entrevue, pressentie. La question, si elle est métaphysique, elle est... En dernière analyse, la question la plus importante, mais elle sera laissée de côté jusqu'au moment où on pourra s'y mesurer. En attendant, il faut réussir ce qu'il y a à faire. Et par conséquent, la question du Chacham, c'est qu'y a-t-il à faire ? Alors c'est Isaac. Lorsqu'on analyse le profil de l'identité d'Isaac dans la famille des patriarches, on sait qu'il est l'homme prêt à faire ce qu'il y a à faire, même si c'est le sacrifice ultime. Il y a une hakeda à faire, il faut être Korban Pessah, je suis prêt. Ça c'est Yitzhak. Comment faut-il réussir ce qu'il y a à réussir ? Je vous donnerai un exemple d'ordre d'exposé pédagogique. Lorsque j'ai étudié le problème de la cacheroute, j'ai un peu compris cela à travers l'image que je vais essayer de formuler. Très souvent, en ce qui concerne les questions des mitzvot de l'ordre de la cacheroute, on se demande, mais qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi faut-il vivre comme ça ? Manger cela, ne pas manger cela ? Quel est le sens de cela ? Alors, un jour, dans un de ces dialogues, m'est arrivée l'image suivante. Imaginez un homme qui n'accepterait de manger qu'au moment où il saura vraiment comment le tube digestif fonctionne. C'est-à-dire, il aura le temps de mourir de faim avant d'arriver à savoir comment le tube digestif fonctionne. Il faut donc se mettre à l'abri de l'acte, de telle sorte de pouvoir se donner le loisir, en fin de compte, de devenir cet étudiant en physiologie qui saura un jour comment le tube digestif fonctionne. Et pour savoir comment le tube digestif fonctionne, il faut savoir finalement comment le corps tout entier fonctionne. Et pour savoir comment le corps tout entier fonctionne et qu'est-ce que ça signifie, il faut avoir la science totale de l'univers pour pouvoir accepter finalement de manger. Alors, il faut d'abord manger. Bien, c'est la même chose au niveau de la cacheroute. Si on attendait de savoir qu'est-ce que ça signifie, jusque dans le dernier des détails, eh bien, on serait mort de faim avant. Ou du moins, on n'aurait mangé jamais cachère de sa vie. Alors on serait mort de ne pas avoir mangé cachère. Je referme la parenthèse. Eh bien, il s'agit donc de la famille d'Abraham. Le Chacham, c'est la figure de Yitzhak. Le Rachar, eh bien, c'est un des deux fils d'Isaac. C'est Ésaü. Lorsque vous étudierez le profil de l'histoire et de l'identité d'Ésaü, vous verrez que il aurait été destiné, en tant que premier-né, dans l'ordre de la nature, il est né avant Jacob, à être le Kohen, à être le prêtre de la famille, de sa propre famille, dans la famille des patriarches, mais il ne veut pas de cette avoda, il ne veut pas de ce service, et c'est le verset célèbre que vous étudierez en étudiant l'histoire d'Ésaü, lorsqu'il méprise ce qu'on en appelle en français le droit d'aînesse, et que en disant Ineni holech lamut, puisque de toutes les façons je mourrai un jour, je vais à la mort. C'est une philosophie pessimiste, la vie s'arrête avec la mort. Et l'amali bechora, à quoi me servirait l'aînesse. Vous voyez, c'est très parallèle à l'attitude de l'enfant Rachar, ma avoda zot lachem, quel est ce service que vous faites, vous, pour vous. J'en veux pas. Il se met en dehors. Le Tam. Et nous retrouvons cela tout à l'heure avec le Rav Harlap un peu plus en détail. Le Tam, eh bien, c'est bien évidemment le terme qui définit Jacob. Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Ohali. Et le Sheno Yodea Lishol, alors là je ne vous ai pas entré trop dans cette parenthèse, c'est Ishmael. On a remarqué que de tous les personnages de la Torah, et en particulier de l'histoire de la famille d'Abraham, il y a un seul qui ne parle jamais, c'est Ishmael. Ne me tentez pas d'analyser cela. Mais enfin, je crois qu'il y a quand même une correspondance avec ce que nous avons vécu dans nos démêlés avec Ishmael dans les temps contemporains. Ishmael ne veut pas nous parler. Vous avez remarqué cela, okay ? Il n'accepte de nous parler qu'au sein d'une conférence internationale. Il y a une dimension universelle de notre problème avec Ishmael, derrière laquelle se cache ce silence d'Ishmael. Dans toute la Bible, tous les personnages de la Bible parlent, même le Satan, le serpent parle, et Ishmael ne parle pas. En tout cas, il ne veut pas nous parler. Donc, on a mis cela en évidence, la quatrième position du dialogue avec celui qui ne s'est pas interrogé concernerait nos démêlés avec Ishmael. Et je ne sais pas si on aura le temps ce soir d'y arriver, mais je voulais indiquer déjà cette première analyse. Alors, surtout, Ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que la Torah a prévu à l'avance qu'il est normal que l'enfant interroge. Elle nous a déjà donné une catégorisation des types d'enfants, des types de questions de ce qui est prévu par elle. Le verset que je voudrais vous lire à ce sujet, c'est le verset 14 du chapitre 13 de l'Exode. Voici ce que dit ce verset. « Vehaya, et il arrivera, ki shalcha bincha mahar lemor, lorsque ton fils t'interrogera demain en disant « Mazot, que se passe-t-il? De quoi s'agit-il ?» Alors tu lui répondras, Bechosekiad, c'est avec une main forte, que Dieu nous a fait sortir de la maison des esclaves de l'Égypte. C'est-à-dire que tout commence dans cet événement qui est commémoré le soir du Seder et qui est l'événement de la sortie d'Égypte. Voilà, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que la Torah a prévu que cela a été normal. La raison, je crois, nous est indiquée aussi par un des derniers versets de la Haftarah que nous lisons au Shabbat Hagadol. Dans cette Haftarah, ben je crois que je n'ai pas pris de texte, est-ce que je pourrais avoir un livre de Vaïkra ? Dans cette Haftara, il y a un verset très caractéristique qui va nous donner la réponse à notre question. Voilà. C'est un livre sobre. Il n'y a pas l'Haftara du Shabbat Hagadol. Voilà. Nous sommes dans... Je n'ai pas la référence ici, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Dans l'avant-dernier du chapitre que nous lisons dans cette Haftarah, c'est Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur, Asher Tziviti Oto Behorev, dont je l'ai enseigné, que je lui ai ordonné à Horev, c'est la montagne du Sinaï, Al Kol Israël, pour tout Israël, Chukim Umishpatim, des lois et des statuts. Hine Anochi Shuleach Lachem et Eliya Navi. Voici, je vous envoie Élie le prophète, Lifnebo Yom Hashem Agadol Vanora, avant qu'advienne le jour de Dieu grand et redoutable, le jour de la fin des temps, Veeshiv Levavot Albanim, et il ramènera Eliyahu Anavi, il ramènera le cœur des pères sur les enfants, Velevanim Alavotam, et le cœur des enfants sur leurs pères, Penabovi Keti et Taret Herem, de peur que je ne vienne et que je frappe la terre d'interdit. Ça veut dire pour éviter que l'histoire n'aboutisse à une catastrophe, parce que l'histoire n'aurait pas mérité de réussir, alors elle aboutirait à une catastrophe, un peu en analogie avec la première tentative de l'histoire humaine, qui a abouti à la catastrophe du déluge, parce qu'elle n'avait pas réussi. Alors avant cela, il y a une dernière chance qui sera donnée, qu'Élie le prophète viendra pour réconcilier les pères et les fils. Et on voit donc l'importance qui est donnée par la Bible à ce problème de la relation entre les générations, entre la génération des pères et la génération des fils, comme étant le foyer même de la signification de l'histoire. Pour que l'histoire réussisse, il y a une première condition fondamentale, il faut qu'il y ait, je vais le dire d'abord en hébreu, vous m'aiderez à traduire, un shilouf dorot, un lien entre les générations des pères et des fils. Si ce lien est coupé, la signification de cette histoire s'évanouit, elle perd toute chance de réussir. Je voudrais donc, nous sommes maintenant en plein dans le sujet, et pourquoi ? Eh bien parce que les événements qui donnent un sens à l'histoire humaine sont par définition des événements historiques. Et si la mémoire de ces événements historiques ne passe pas, et pour qu'elle passe, il faut qu'il y ait shilouv hadorot, il faut qu'il y ait lien entre les générations, alors tout s'arrête. Tout est coupé, il faut à chaque génération recommencer tout depuis l'origine, et l'histoire humaine fait un surplace absolu du point de vue de sa signification spirituelle et morale, et nous voyons bien que c'est le danger de la civilisation humaine. Il y a développement des sciences et des techniques, et il y a un surplace absolu au niveau de l'amélioration morale. Nous sommes au même niveau du problème moral non résolu que le niveau des premières générations. Je ne sais pas si j'ai suffisamment exprimé cela. Okay.
Des premières générations d'histoire humaine.
les tensions entre le bien et le mal restent de même nature, alors que l'évolution intellectuelle, scientifique et technique de l'humanité est considérable. Nous avons un cœur moral primitif avec une civilisation surévoluée. Et c'est un des plus grands dangers, la plus grave des impasses de la civilisation contemporaine. Je pense que c'est suffisamment clair, vous voulez qu'on analyse un peu plus. Il semble bien que le cœur de l'homme, du point de vue du problème moral, le choix entre le bien et le mal, n'est en rien évolué que dès le début de l'histoire de l'humanité. C'est toujours la même problématique de Caïn et d'Abel, sempiternel et sempiternellement, Caïn tue Abel, et c'est le même problème. Semble-t-il, il n'y a pas, apparemment, de progrès moral à l'échelle collective de l'histoire de l'humanité. À l'échelle individuelle, il y a des réussites de performance d'évolution morale. Il y a, à chaque génération, des saints. Nous les appelons les justes, mais les goyim les appellent les saints. Je crois même des héros. Vous voyez à quoi je ne veux pas faire allusion. Et puis, il y a trois sensibilités différentes derrière ces trois termes. De considérer que l'homme réussi est un juste, et connotation morale d'abord. De considérer que l'homme réussi est un saint, je parle en français, pas en hébreu, il y a une connotation d'abord religieuse, ou de considérer que l'homme réussi est un héros, il y a une connotation, je ne sais pas comment appeler ça, mais vous voyez tout de suite, la vertu grecque ou latine, c'est la force. C'est-à-dire ce type de profil de la virtus, de la vertu. Lorsque nous disons vertu, pour nous, juifs, c'est un sens moral. Mais sachez qu'étymologiquement, c'était la force guerrière qui s'appelait la vertu. Le vir, c'est le guerrier. C'est clair, en tout cas virtuellement. Pour revenir à notre problème, c'est ce verset que je viens de citer tout à l'heure, qui nous en donne la réponse. Zichru Torah mon cher Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur. C'est-à-dire, si on l'oublie, si on ne s'en rappelle pas, on l'oubliera. Je veux dire, étant donné qu'il y a un dévoilement de la signification de la destinée humaine à travers l'histoire, c'est à travers la mémoire d'abord que doit passer une tradition. Et non pas le véhicule d'une tradition. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la raison. On ne peut pas reconstituer par l'intelligence un événement qui aurait été oublié. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous voyez que la perception du sens de l'histoire d'après la tradition juive est d'abord par la mémoire historique. En second lieu seulement, il y a un système intellectuel qui va formuler en croyance, en dogme, en connaissance, l'objet de la foi. Mais la foi elle-même est d'abord de l'ordre d'une mémoire historique. Et si la Haggadah, le récit de l'événement, récit explicatif, ne passe pas d'une génération à l'autre, alors cette hérédité traditionnelle est coupée. Je vous donnerai cette comparaison schématique. De la même manière que l'hérédité biologique, si elle est coupée, ne peut pas se reconstituer, bien, de la même manière, l'hérédité spirituelle, si elle est coupée, ne peut pas se reconstituer, il s'agit de la mémoire. Le terme employé par le verset ici, très important, « zichlou », mémoriser. Si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, eh bien, on l'oubliera, les mots ayant leur sens simple. Et encore une fois, aucun prodige intellectuel ne nous permettra, sinon par hasard, l'aléatoire total, de reconstituer de quoi il s'était agi. Eh bien, je crois que les événements contemporains nous montrent bien qu'il en est ainsi. Je le dirai très, très rapidement. Il y a eu une génération, elle est en train de disparaître, qui a assisté aux événements contemporains de la Shoah et de la Truma. C'est-à-dire, après 2000 ans, deux événements massifs qui sont au centre de la signification de notre histoire, l'exil et la fin de l'exil, la Shoah d'un côté, la restauration de la nation d'Israël après 2000 ans d'interruption. Ceux qui ont assisté à ces événements y ont assisté. Ceux qui n'y ont pas assisté, s'ils ne reçoivent pas la transmission de ce récit, eh bien, ils ne sauront jamais de quoi il s'agit. Ce n'est pas la peine d'analyser trop ça, nous sommes des contemporains, vous comprenez directement de quoi il s'agit. Je veux simplement citer les premières enquêtes qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années en Europe, en particulier en France, sur les événements du temps de la Shoah, du temps du nazisme, la réaction des adolescents a été « De quoi parlez-vous ? Je ne connais pas, ça n'existe pas. Hitler, je ne connais pas. » Ça va très rapidement vite, je ne sais plus comment dire, mais vous avez compris. Ça va terriblement vite. Nous voyons aussi d'ailleurs cela dans la nouvelle génération de jeunesse juive qui n'a pas, encore une fois, qui n'a pas connu ce passage du monde ancien au monde nouveau, qui n'a pas su ce que c'était que l'histoire du monde sans Israël, l'histoire du monde où le peuple juif c'était comme les Hébreux en Égypte, c'est-à-dire soumis à l'esclavage total, et où subitement la sortie d'Égypte a eu lieu, et où subitement l'événement de restauration de la nation d'Israël a eu lieu. Et je crois que c'est très parallèle. Si cela n'est pas gardé par une commémoration de mémoire qui remémorise, aucune idée n'arrivera à restituer ce dont il s'agissait. L'événement de la Shoah d'un côté, l'apparition de l'État d'Israël de l'autre. Encore une fois, c'est banalisé. Lorsque ça passe par l'intelligence intellectuelle pure et simple, si cette intelligence n'a pas gardé le contenu de mémoire, le zecher dont il s'agit. Eh bien, c'est ce que la Torah a prévu. Étant donné que la sortie d'Égypte, qui est la base historique de l'identité de ce peuple qui recevra la Torah corollaire de la sortie d'Égypte, est un événement historique, il est donc normal que la génération suivante doive interroger la génération précédente, d'où cette catégorisation en quatre attitudes de la question de l'enfant. Alors on retiendra surtout ce verset qui est le verset 14 du chapitre 13 de l'Exode. Un verset corollaire se trouve dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 20. « Ki shalcha bincha mahar lemor » Lorsque ton fils t'interrogera demain en disant « Ma edut v'achokim v'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem » Que sont ces témoignages, ces lois et ces statuts que Dieu, que Hashem, notre Dieu, vous a ordonné? Vermartel Vincha, verset 21, tu répondras à ton fils, tu diras à ton fils, Avadimayinu le pharaon et Mitzraïm, nous étions esclaves au pharaon en Égypte, mais aussi nous Hashem et Mitzraïm et Razaka, et Dieu est intervenu pour nous en faire sortir avec une main forte. Je veux dire que la Torah indique ici que d'exil, de cet exil-là, on ne sort pas. C'est indiqué de façon très claire dans le Talmud. Il y avait une programmation de l'esclavage telle dans la société égyptienne qu'il n'y avait aucun espoir de se libérer. Si Dieu n'était pas intervenu, nous serions encore là-bas, va nous dire le texte. Et encore une fois, on n'aurait pas pu diagnostiquer cela si on n'avait pas vécu les événements du temps de la Shoah. Lorsque le piège s'est refermé sur l'Europe et sur d'ailleurs l'Asie et l'Afrique, là où il y avait les colonies de l'Europe, et où les Juifs étaient tout autant en danger, comme vous le savez, eh bien, on ne sortait pas de ce piège-là. On ne sortait pas d'Europe au temps du nazisme, pas plus qu'on ne sortait d'Égypte au temps de Pharaon. Je pense que c'est suffisamment clair. Il faut une intervention miraculeuse pour que ça puisse se faire. Et je crois que nous pouvons prendre appui sur ce qui s'est passé, mais encore une fois, à condition de pouvoir le mémoriser suffisamment et ne pas l'oublier, de telle sorte de comprendre ce que voulaient dire tous ces textes en nous disant que la sortie d'Égypte est un événement miraculeux, qui, d'après les situations existentielles qui sont désignées, ne pouvaient pas avoir d'issue, sinon par une intervention de l'extérieur même. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer d'abord par étudier très succinctement la structure de l'Agada. Et je vous indiquerai, oui.
Si avant, si le problème moral de Caïn et d'Hébel et du Tov et du Ra est resté le même à l'époque jusqu'à aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est pas là aussi une faillite de la Torah? La Torah et du peuple juif.
C'est-à-dire, c'est une faillite de l'humanité. La Torah nous a donné la problématique qu'il faut résoudre. Elle est allée directement à l'essentiel. Dès qu'il y a deux hommes en présence, se pose la problématique Caïn Abel. Ce n'est pas pour rien que, si l'on reprend les lignes essentielles du message des prophètes, qu'est-ce qu'ils donnent comme message essentiel pour le temps dit messianique? C'est un temps où Caïn ne tuera plus Abel, tout simplement. le temps de la paix. Et on voit bien que l'humanité est encore aux prises avec ce problème. Elle n'arrive pas à trouver la solution qu'il faudrait existentiellement pour que cela réussisse. Si vous voulez, j'aurais une petite parenthèse, même si ça nous prend du temps, sur cette problématique-là. C'est que il nous faudrait beaucoup de temps pour analyser l'exégèse des versets qui la formule. Je vais donc schématiser de façon un peu abstraite. Il semble-t-il, il n'y a eu que quatre théories, enfin solutions entrevues dans l'histoire de l'humanité pour résoudre le problème Caïn Abel. Voilà de quoi il s'agit. Dès que deux sujets humains sont en présence, l'acte d'histoire, quel qu'il soit, de relation entre l'un et l'autre, fait que l'un des deux devient objet. Il est aliéné, comme on dit aujourd'hui, dans le vocabulaire de la culture contemporaine. En principe, il y a deux sujets en relation, mais toute relation de sujet en sujet transforme un des deux sujets en objet. Et je vais vous donner un exemple simple. Voilà, je suis en train de vous parler. Dans ce fait que je vous parle, je suis sujet, vous êtes objet. Et par conséquent, je dois, pour résoudre ce problème de la relation à autrui, je dois parler de manière telle que la dignité du sujet reste intacte et que je ne vous transforme pas en objet. Il y a une manière de parler qui transforme l'interlocuteur en objet, elle est interdite. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Inversement, vous m'écoutez, et là c'est vous qui êtes le sujet, et moi qui suis l'objet. Dans le même événement, je parle, je suis sujet, vous êtes objet, vous m'écoutez, vous êtes sujet, je suis objet. Donc il y a une manière d'écouter qui doit réintégrer la dignité de celui qui parle. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Donc, c'est ce qu'on appelle dans toutes les civilisations la politesse dans le sens étymologique qui est préalable à la morale. Politesse dans le sens étymologique, c'est comment vivre en commun dans la cité. Le mot de polis en grec signifie la cité, la politesse, c'est l'art de vivre dans la cité. Et quand on n'est pas poli, on a besoin de la police. En français. Et c'est ce qu'on appelle la peur du gendarme. Et alors, et voilà, il y a toute une tendance de la civilisation humaine qui prend acte de ce caractère fatal. Si tout geste d'histoire fait qu'il y a un sujet et un objet, je serai le sujet, tu seras l'objet. Et on en prend acte. Ce sont les totalitarismes. C'est, vous voyez, tout de suite le profil de la maison de l'Égypte en tant que Belar Vadim. Il faut un Meller et un Eved, et bien je serai le Meller, tu seras le Eved. Ensuite, il y a une réaction contre cette problématique qui, effectivement, est sempiternelle dans l'histoire. Ce sont tous les totalitarismes. C'est une réaction qu'on trouve officiellement dans le christianisme. Puisque tout geste de relation à autrui fait qu'il y a un sujet et un objet, un maître et un esclave, eh bien, je serai l'esclave, tu seras le maître. Je préfère ça plutôt que le crime qui consiste à être le maître d'un esclave. Je préfère être l'esclave que le maître. C'est-à-dire objet, sujet. L'autre, c'est le Seigneur. Okay ? Et moi, je suis son serviteur. Je dis bien que c'est théorique, c'est le sermon sur la montagne, dans les textes évangéliques, qui est théorique, aucune société chrétienne n'a vécu comme ça. Les sociétés chrétiennes ont cela comme idéal, théorique, mais elles vivent dans le premier modèle. Est-ce que c'est clair ? Donc, alors là aussi, il y a échec. Il y a une espèce de héroïsme sacerdotal, si vous voulez. Je vois tous ces personnages des romans chrétiens qui nous montrent l'idéal du héros de la vertu qui consiste à être le sacrifié. Mais, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça dans la société. Il y a dans certains couvents, à l'échelle individuelle, cette attitude d'humilité du sacrifié comme étant la solution au problème moral. Mais le problème moral n'est pas résolu puisqu'il y a toujours une victime. C'est pourquoi je dis c'est théorique. Et une troisième tentative, on la trouve surtout dans les spiritualités d'Extrême-Orient. Je dis bien spiritualité par religion, je pense en particulier au bouddhisme, qui n'est pas exactement une religion dans le sens classique du terme, mais qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une philosophie religieuse ou une spiritualité. Ça consiste en ceci. Puisque tout geste d'histoire entraîne ce crime qu'il y a un maître et un esclave, il faut arrêter l'histoire. Et alors la formule serait non plus sujet-objet, non plus objet-sujet, mais objet-objet. Il n'y a plus de sujet. On arrête l'histoire. Le terme technique chez les philosophes pour parler de cela, c'est l'ataraxie. Et on a l'habitude de citer un proverbe chinois, en tout cas j'ai l'habitude de le citer, pour montrer un peu quelle est cette tendance. Il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux être couché qu'assis, il vaut mieux être mort que couché. D'abord, on arrête l'histoire. La seule manière d'arrêter la souffrance, c'est d'arrêter l'histoire. Et donc cet idéal de l'ataraxie, vous voyez se profiler derrière tout ce qui fait, au fond, l'étoffe même de la spiritualité extrême orientale, nirvana, on se fond dans le grand tout, l'individu est dissous, pour pouvoir être heureux, il faut ne plus être. Grosso modo, là encore, vous voyez, le problème est vu, mais il n'y a pas de solution. Alors la quatrième position, c'est celle que propose la Torah. Et je vais la formuler très rapidement, pour pas qu'il y ait objet, il faut que chacun reconnaisse l'autre comme supérieur. Et il faut que ce soit réciproque. C'est-à-dire que chacun reconnaît l'autre comme supérieur, il y a donc deux supérieurs et pas d'inférieur. Mais si ce n'est pas réciproque, il y a échec. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la derrière Ken. C'est-à-dire, je veux dire, au niveau du langage, quand un juif salue un autre juif, il dit « Adoni ». Mais chez les goyim aussi, « Monsieur »,« Monsieur », c'était « Monseigneur ». Quand quelqu'un dit à l'autre « Monsieur », il veut dire « Je te reconnais comme mon maître ». Mais si l'autre prend au sérieux, « Ah, tu me reconnais comme ton maître, tu es mon esclave », c'est l'échec. Il faut que ce soit réciproque. Est-ce que c'est clair? C'est, une minute, je voudrais finir l'analyse, c'est la solution que propose la Torah. Alors, vous voyez, à quel point c'est simple. C'est simple à comprendre, mais c'est très difficile à faire. Comment se comporter de telle sorte que dans toute relation à autrui, chacun reconnaît l'autre comme supérieur, de telle sorte de réintégrer la dignité du sujet. Je prends ici un vocabulaire un peu kantien, mais ça va assez dans le problème. Et on voit d'ailleurs ce dialogue qui se cherche entre Jacob et Ésaü. Jacob parle à Ésaü en l'appelant Adoni, et l'autre se prend au sérieux. Et alors il y a échec. Vous avez compris le problème. Qu'est-ce que tu veux dire?